France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Il s'est échappé du grand auditorium de la Maison de la Radio. Pour nous, rien que pour nous, il répète l'événement de dimanche soir, la pépite de l'Hyper Weekend Festival. Imaginez le boss du rap français, Youssoupha, créer un hommage musical au boss de la chanson française, Daniel Balavoine. Imaginez comme ça va être grand, imaginez comme ça va être beau. Le chanteur blanc qui a grandi dans le sud-ouest, le rappeur arraché au Congo quand il avait seulement 9 ans. Qu'ont-ils en commun ? Une même colère, peut-être, face à l'injustice, une même lucidité politique face à cette France qui parfois exclut, un même sens de l'engagement. Balavoine est mort il y a exactement 40 ans. Pas sur scène, pas en chantant, non, en Afrique, en mission humanitaire. Son hélico s'est écrasé sur le continent noir où Youssoupha a choisi de refaire sa vie. Portrait numéro 76. Hyper Weekend Festival, programme magnifique du 23 au 25 janvier. Réservation sur notre site de la Maison de la Radio et de la Musique. Bonjour Youssoupha.
Bonjour.
Et bienvenue à France Inter.
Quel accueil.
Ah ouais.
C'est beau.
Ça va les répétitions?
Ça se passe très bien, j'ai hâte d'être à dimanche. Même moi j'ai envie d'y aller.
Évidemment.
Après une présentation comme ça.
Juste pour qu'on se fasse une idée, vous êtes combien sur scène?
On est bien une petite douzaine, peut-être un peu plus, avec un grand chœur gospel, mes arrangeurs et mes techniciens. C'est un concert un peu hybride qui mélange un peu les générations et le son et acoustique et vocal et un peu de technique. Un peu
là, moi, digital. J'ai choisi du son, mais du son seulement acoustique. D'abord, c'est vous, ensuite, c'est Balavoine.
J'ai laissé peu de silence, peu de lumière comme le Caravage, mais dans mes prières, je rappe du Balavoine. Et pourtant, je veux vivre ou survivre sans poème. Sans blesser tous ceux que j'aime. Être heureux, malheureux. Vivre seul ou même à deux. Survivre sans poème. Sans blesser tous ceux que j'aime. Être heureux, malheureux. Vivre seul ou même à deux.
Mais vivre en silence. En pensant aux souffrances de la terre. Et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Oh, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère.
Frisson.
Ouais.
Ah ouais, chair de poule. Hein.
Je redécouvre encore. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la vie me rapproche de Balavoine petit à petit. C'est-à-dire que de là où j'ai grandi, je ne connaissais pas Balavoine.
Mais... vous étiez à Kinshasa.
J'étais à Kinshasa.
Vous aviez 7 ans quand il est mort.
Exactement.
Ça n'a rien à voir.
C'est pas mon espace-temps. C'est pas ma culture. C'est pas mon croisement. Et puis j'arrive en France, la chanson française, un panel de chanteurs. Et puis Balavoine, celui qui est un peu plus en colère. Et puis finalement j'oublie. Et puis le rap arrive par là. Et puis les références des rappeurs.
Donc c'est la radio pour vous, Balavoine.
C'est la radio, oui.
C'est la
grande variété. Mais une espèce de personnalité qui est fascinante. Et puis un rapprochement par rapport à l'Afrique que je comprends pas toujours, que j'arrive pas à m'expliquer, mais que je vois un peu de loin. Puis après, l'extrait que vous avez passé, là, c'est Nash, la petite sœur de Mathieu Chédid, qui m'invite dans un spectacle où je reprends du Balavoine. Et donc petit à petit, comme ça, je m'amourache. Et puis il y a Didier Varro qui a cette superbe idée. Il me dit, depuis le temps que.
Didier Varro, c'est le boss de la musique ici.
Exactement. Et c'est le boss de la musique en France.
C'est ça, au moins.
Et il me dit, j'adore. Depuis un moment, depuis que j'ai sorti mon album, Amour Suprême, il vient sur beaucoup de concerts, il me dit « Moi, j'ai été très proche de Daniel Balavoine, j'aime sa dynamique, et toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Bon, on n'a qu'à boucler la boucle, en fait, après ta tournée, est-ce que tu peux faire un tour à l'Hyper
La colère de Balavoine, parce qu'on sent que ça lui prend les tripes, elle sonne juste pour vous, Youssoupha. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2025, et de là où vous venez, de ce que vous avez vécu, elle sonne pas comme une colère de petit blanc à la petite semaine. Parce que Balavoine, il avait tout. Hein. Il avait tout.
Bah
il
oui.
était adoubé par les télés, il était adoubé par les journalistes.
Il avait le succès.
Il avait le succès. Il était diffusé par les radios. Ouais. Rien à voir avec les rappeurs. Quand eux, ils ont chanté leur colère, on les a laissés à la porte.
Effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a été stigmatisés. C'est vrai qu'il y a des colères, comme celles qui viennent des rappeurs, qu'on trouve injustifiées parce qu'on se dit c'est un discours victimaire de gens à la marge, donc qui marginalisent la société. Et en fait... je trouve que les colères comme pour des gens comme Daniel Balavoine, elles sont saines. Parce qu'en fait, il n'était pas en colère pour être en colère, il était indigné. Il était indigné parce que, oui, sa vie tourne bien, mais autour, ça tourne mal. Mmh. Il s'inquiète pour ça. Et en fait, même aujourd'hui, ça trouve écho quand même en 2026. s'inquiéter pour les autres, la bienveillance qui tourne sur les autres, c'est pas seulement son cas à soi qu'il faut voir. Et en fait, il s'est inquiété pour les autres et c'est même ça qui a amené jusqu'à la fin de sa vie, l'inquiétude pour les autres et en fait la bienveillance, l'indignation pour les autres.
Et quand je dis que les rappeurs, on les a laissés à la porte de tous les relais médiatiques et culturels pendant très longtemps,
c'est très,
plus
très longtemps.
Du tout le cas aujourd'hui.
Effectivement.
Mais pendant très longtemps, ça a été le cas. Donc à l'époque, la chanson française, c'était pas vous.
Non.
Aujourd'hui, la chanson française, c'est qui et c'est quoi ?
La chanson française, en fait, il y a une chose que la culture française, en tout cas les institutions, ont négligée. Après, je le dis, certains vont dire c'est présomptueux ou quoi que ce soit, après, tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire des Brassens, des Brel, des Balavoine, des Renaud, etc., eh ben, la tradition du texte et de l'engagement, les rappeurs l'ont plus entretenu que la chanson française des années 90-2000. Et c'est ça qui a créé quand même, mine de rien, l'élévation du rap. Mais par contre, la stigmatisation, elle était réelle. Comme on était venu en marge de la société...
Je vous fais écouter This Is, ça c'est du rap. Et si à l'intérieur de cette chanson, vous reconnaissez du Renaud, c'est que vous avez l'oreille fine. Écoutez.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe la nuit dans les caves avec son Beretta. Traque les mômes qui chouravent depuis Naro bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de pencu. Sa femme tire pas de la cuisine, sinon il compte dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par jeter, c'est vous dire s'il est con.
Hey, The Trey, il se passe quoi dans ton bâtiment?
Au premier dans mon HLM, y'a le jeune cas dynamique. Costard en Alpaga.
C'est un album d'il y a 20 ans.
C'était des appels à l'aide, ouais. C'était des appels de détresse en fait.
Plus sauf que moi j'avais pas compris qu'il y a toute une génération du rap français qui s'est nourrie chez Renaud.
Ah ben oui.
Moi j'avais pas compris
ça. Ah mais c'est le meilleur des rappeurs. Mais c'est pas une... on le dit pas pour faire un bon mot, parce ouais. que c'est vrai. C'est-à-dire que tous les gens du rap, en fait, quand on arrive à Brassens, à Balavoine, à Barbara, à des gens comme ça, à Renaud, ça arrête le temps. C'est-à-dire qu'on sait que là, il y a un engagement, à Le Forestier, etc. Moi c'est dans eux qu'on trempe nos plumes pour faire ce qu'on a fait par la suite, notamment le rap en engagé.
Ça veut dire que le rap français, il s'est construit au cœur de la chanson française.
Oui.
Et il s'est pas construit contre la chanson française.
Ah non, absolument pas. Ouais. En fait, c'est deux mondes qu'une espèce de dissonance cognitive a refusé de faire se rencontrer. Non, en fait, on était le prolongement.
C'est
de
toujours
ça.
Le cas. Hein.
Oui, effectivement.
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas.
C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous composez la chanson de l'Euro qui doit accompagner l'équipe de France, ça fait hurler l'extrême droite. Bah. Quand Aya Nakamura arrive aux Jeux Olympiques, on dit qu'elle, enfin que l'extrême droite dit qu'elle martyrise la langue française. Donc le choix des mots là, il a beaucoup de sens.
Alors qu'elle fait rayonner sa culture, notamment à l'international, parce qu'au fait, Aya Nakamura, c'est aussi la France. La France n'est pas que Aya Nakamura, mais c'est un peu de Renaud, un peu de Aznavour, un peu de Aya Nakamura, un peu de Teddy Riner, etc.
Mais ça veut dire qu'aux rappeurs et aux artistes noirs, il y a encore une partie de la classe politique française qui refuse le fait d'appartenir à la chanson française.
Énormément. À qui on refuse même d'appartenir à la chanson française, on leur refuse même d'avoir des avis sur des sujets de société, dans une société dans laquelle ils vivent. Mais beaucoup sur aussi des dynamiques de couleurs qui définissent pas les gens. Les gens ne sont pas que des couleurs.
Des couleurs de peau.
On voit des couleurs de peau. Moi, je me rappelle, on sort un peu de la musique, mais parce que à l'époque, j'avais fait justement cette chanson pour les Bleus et en fait, on avait dit je suis pas légitime pour ça et tout. Et c'était pas ça le plus grave. Moi, je me rappelle dans la même époque, il y avait un signe de solidarité, de lutte contre les violences faites aux Noirs, Black Lives Matter, que toute l'Europe célébrait lors de cet Euro-là. La Fédération française avait empêché les footballeurs de l'équipe de France de marquer ce coup-là, alors que c'est précisément...
En mettant un genou à terre,
voilà,
c'était ça.
Alors que c'est précisément l'équipe d'Europe où il y a le plus de diversité. Alors qu'on se retrouvait face à jouer contre des Danois ou des Norvégiens, où en fait, ils sont tous blonds, mais ils sont solidaires de cette cause, et des jeunes Noirs immigrés pouvaient pas représenter ce que représente leur pays, en fait. C'est dommage.
Dans Amour Suprême, votre dernier album, vous dites, papa disait, si personne ne te comprend, fais-le en chanson.
Ouais. Ben c'est, mon père était chanteur et c'est par la forme de l'art qu'il a pu faire passer des messages, alors d'amour, mais aussi à des moments des messages politiques, parce qu'en fait on a grandi dans le Zaïre de Mobutu et en fait il y a eu des moments, notamment dans les années 90, où c'était compliqué quand même dans cette région du monde. Et effectivement, en chanson, j'arrive à faire passer plus de messages et peut-être ça me fait rester plus longtemps.
On l'écoute, votre père, parce que Taboulaye Rochereau.
Exactement.
Ouais, une gloire. Une gloire.
Une icône de la rumba.
De la rumba congolaise. Mikolo to sekala kina mosolo yamboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali oya kobongisa Congo avenir.
Pangito Sala, et Pangito Sala, Montagna Sala.
Youssoupha, ah ouais, vous voulez chanter?
Ah oui, non, ça c'est. Non, non, il chante beaucoup mieux que moi, lui c'est le boss. Congo à venir, c'est un titre qui date d'il y a 30-40 ans, ouais. Facile, et qui racontait déjà l'inquiétude qu'il avait pour le futur de son pays, et au fait c'était beaucoup d'engagement, et il faisait passer ces messages-là en chanson, comme vous le disiez justement.
Pourquoi le rap français compte autant de talents nés au Congo, ou de fils et de filles de Congolais? Gims, Damso, Nino, SDM, Tiakola, Josman, Despo, Théodora, qui était rappeuse au ouais. départ. Pourquoi?
On peut en citer encore plein d'autres. On en aurait jusqu'à midi. Alors, il y a une fibre musicale assez naturelle, alors, qui tient par rapport à notre héritage culturel. C'est-à-dire que tout le monde est artiste au Congo. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier d'être artiste, c'est une disposition naturelle et culturelle qu'on a dans la cour des maisons, des parcelles. C'est-à-dire que tout le monde chante, le voisin chante, le petit frère sait jouer de la batterie, la maman sait danser. Et donc, du coup, on développe ça. Et même en ayant une vague d'immigration qui est arrivée en France et en Belgique et ailleurs, on a conservé ça, on a entretenu ça. Et alors, effectivement, il se trouve que le rap français a été le socle pour pouvoir faire jaillir beaucoup de talent. Et là, il y a une génération qui arrive et ça épate tout le monde. Les Congolais, nous, on savait. On savait, c'est comme d'être au Brésil pour le football. Il y a quelque chose de culturel. C'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est une disposition avec laquelle on est culturellement.
Et votre père était totalement absent de votre enfance, totalement ouais. absent de votre jeunesse. On dit qu'il a eu 68 enfants disséminés.
Peut-être plus, peut-être moins, plus,
on ne sait pas. C'est une légende.
Selon la police, voilà. Ou selon les manifestants.
En tout cas, il était en tournée, il a passé sa vie sur scène, en réalité. Ah oui. Quand vous vous lancez, la première fois que vous êtes face à un micro, que vous posez votre voix sur de la musique, qu'est-ce qui se passe en fait?
J'essaie de ne pas penser à lui parce qu'il y a quand même une forme de complexe. C'est grand, un papa qui est une icône et tout.
Mais vous voulez qu'il vous entende quelque part? Vous vous dites alors que c'est la seule et unique manière qu'il vous entende?
Peut-être qu'il faudrait que je m'allonge sur le divan d'un psy, parce ouais. que peut-être qu'il y a un peu de ça.
Bah ouais.
Parce qu'au début, quand même, j'ai le complexe. C'est-à-dire que je ne veux pas parler de lui et dire que c'est mon père, parce que j'ai peur qu'on me compare et voir à quel point je suis petit. Et pour être très honnête avec vous, c'est le jour où il y a un album à moi qui est disque d'or, que là, je décomplexe parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de certification et de validation que je suis un artiste accompli, que là, je commence à être plus en contact avec lui et plus à m'associer à son image.
Et aujourd'hui, Youssoupha, il est devenu bien plus célèbre que son père, en tout cas en France.
C'est décomplexé. J'ai osé une parole.
Vous l'avez dépassé.
Je ne sais pas si je pourrais le dire. Là, quand vous le dites, peut-être que c'est vrai, mais ça me fait froid dans le dos de le dire. Il y a une chanson où je disais, avant, on m'appelait le fils de Taboulaye, maintenant, pour appeler Taboulaye, on dit le père de Youssoupha. Mm. Et ça a réglé des complexes quand même. Oui, ça a réglé beaucoup de complexes.
Alors, on l'écoute, Amour Suprême, ce titre qui a donné aussi le titre de l'album.
Encore tout dans le grand bain, j'ai toujours pas nagé. Et on dit que l'océan est ma maison. On m'a traité de macaque, grand singe, je m'adapte. Maman disait, ne dors pas pour tes rêves et fais attention. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va.
Il est très émouvant cet album, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre femme,
ouais.
qui partage votre vie depuis de nombreuses années,
ouais.
de votre fille aussi. Ouais. Alors j'ai cherché, il fallait bien une référence à la première femme de votre vie, donc à votre mère.
Oui.
Ouais. Et on l'entend là. Maman disait, ne dors pas pour tes rêves et fais attention.
Ouais.
Bah, veut dire quoi?
Ma mère, elle a fait beaucoup de sacrifices, comme beaucoup de mamans. Hein. Elle n'est pas plus originale qu'une autre, mais comme c'est la mienne, je la porte haut.
Elle a fait un sacrifice immense.
Effectivement,
elle a laissé partir son petit garçon.
Elle m'a laissé partir très jeune.
Vous aviez 9 ans.
J'avais 9 ans.
Et elle est restée au pays.
Pour que je puisse, voilà. Elle est restée au pays. Elle m'a confié à ma tante, sa sœur, pour que je puisse avoir plus de chance par rapport à mes études, parce que j'étais plutôt doué à l'école. Et donc, à l'époque, je l'avais vécu assez mal, comme un...
Ouais, c'est comme un abandon.
Peut-être pas un abandon, mais un sacrifice peut-être disproportionné. C'est-à-dire que moi, mon éducation, pour moi, mon éducation, c'est être auprès d'elle et être heureux auprès d'elle. Mmh. C'est-à-dire que je m'en fous, l'école, tout ça, ça compte pas. Mais elle, pour elle, elle savait que si jamais je veux m'élever, il allait falloir faire des sacrifices. Et c'était juste un au revoir. Et puis, quelques temps après mon départ, elle est décédée. Et ben, forcément, en tant qu'enfant, pendant longtemps, j'ai pas compris ça. Et donc, du coup, je me sens redevable il y a une espèce de gratitude. Pendant que je faisais mes études aussi, il y avait une espèce de poids, quand même, d'être à la hauteur, de sacrifice. Je vais pas parler de culpabilité, mais quand même un espèce de poids qui m'est passé à un moment quand moi-même je suis devenu père, parce que je me suis rendu compte que les parents, ils font pas comme ils veulent, ils font comme ils peuvent. Mmh. Je fais comme je peux pour mes enfants, avec beaucoup d'amour. Elle a fait comme elle a pu. Donc, j'essaie de lui rendre cet amour-là à travers celui que je donne à mes enfants.
Et vous vous adressez à votre fille dans Dieu est grand 2.
Oui.
Et ça, ça a fait couler de l'encre.
Oh, j'ai
que
adoré.
Vous mettiez Dieu au féminin.
Ah oui, mais j'ai adoré, moi. J'ai adoré. J'avais fait une chanson magnifique pour mon fils, ça s'appelait Mon Roi. Et quand j'ai décidé d'écrire pour ma fille, tous les gars, notamment, tous les gens, notamment les mecs, me disaient ça doit s'appeler ma reine. Oui. Et ça m'a dérangé que les hommes ne voient les femmes que comme une déclinaison de leur personne. Oui. C'est-à-dire que mon roi, ma reine. Oui. Et je trouvais ça trop facile. Et quand j'ai dit non, on va faire plus grand, j'ai dit on va faire Dieu est grande. Toutes les femmes ont dit waouh, et tous les gars ont dit c'est trop.
Parole. T'es pas obligé d'être une fille banale. T'es pas obligé d'être Michelle Obama. T'es pas obligé de vouloir être mère. T'es pas obligé de vouloir être reine, n'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, et paf, phénomène sur TikTok.
Phénomène sur TikTok. Des gars un peu fâchés, mais des filles assez contentes.
Bah ouais. Youssoufa, alors le boss du rap.
Mais à la base, moi j'ai surtout fait une chanson d'amour pour ma fille. En fait, en voulant écrire pour ma fille, je me suis rendu compte des épreuves et ce à quoi font face les filles, les petites
toutes les
filles.
Injonctions.
Voilà, exactement. Ouais. En parlant avec ma femme,
toutes
mes sœurs.
Toutes les obligations.
Je me suis dit, ah ouais, c'est plus compliqué là.
Donc, tout du coup, ce à quoi il faut se conformer.
Ouais, je vais pas pouvoir me contenter juste d'une chanson d'amour. Il va falloir que ça soit plus grand que ça. Et donc, du coup, j'évoque toutes ces questions-là. Et à ce moment-là, c'était marrant parce que quand le phénomène de la chanson est sorti, on m'a dit, mais t'es féministe et tout. Je dis, non, j'ai pas l'impression. Je suis juste papa, en fait. Je suis pas féministe.
Vous avez enregistré un titre avec Suzanne, qui est une chanteuse féministe. Alors, elle, vraiment féministe.
Elle est.
Engagée jusqu'au bout des ongles et tout. Et c'est hyper drôle parce que dans cette chanson, vous dites, mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée, elles me voient en homme déconstruit. Je suis juste un homme en chantier.
Ah oui, mais parce que c'est la vérité, faut être honnête.
Je suis juste un homme en chantier.
Mais parce que j'ai grandi dans des vestiaires de foot, j'ai grandi avec tous les clichés de la société patriarcale dans laquelle j'ai évolué. Et donc du coup, moi-même, je suis en train de voir que je découvre des choses. Et donc, je suis pas à porte-drapeau, j'essaie de me soigner déjà.
Ouais, ouais. Ouais. Et là, vous êtes en studio face à moi avec un vrai beau maillot de foot.
Ouais, c'est le Sénégal.
Le Sénégal,
ouais.
Le Sénégal, parce que votre maman était sénégalaise.
Exactement,
voilà,
ouais.
Votre père congolais, mais votre maman sénégalaise.
Exactement.
Donc là, on sent un peu le roi du monde.
Ouais,
quand on
oui,
porte
non,
le maillot du Sénégal.
Voilà, triomphant.
Triomphant. Allez, joyeux triomphe. Merci Youssoufa d'avoir manqué quelques minutes de répétition pour le magazine de la
Avec
grande
plaisir.
Matinale. Donc, on se précipite dimanche soir.
Dans l'écran de l'auditorium. Il faut le voir aussi, cet auditorium.
L'auditorium magnifique
la peine,
de la maison de la radio et de la musique pour Daniel Balavoine. Voilà, il reste des places, donc à réserver sur notre
pas
site.
Pas beaucoup, mais allez-y.
Pas beaucoup, voilà. On se quitte avec Balavoine, évidemment.
Ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand, qui peut changer ce que je porte dans mon sang, qui a le droit de m'interdire d'être vivant, de quel côté se trouvent les bons ou les méchants, leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. crois que mon argent endort ma tête. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Il croit peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? Je m'apprends rien, je voulais juste un peu parler, choisir le train. La vie ne m'apprend rien, j'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Prendre un chemin.
Daniel Balavoine est mort il y a 40 ans. En janvier. Bon, là, il y a des
Charlie
et Charline Van Honecker qui dansent dans le studio. La vie ne m'apprend rien. C'était son chef-d'œuvre des années 80 dans le Mac de la Grande Matinale. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, 9h45. Charline Van Honecker.
Bonjour,
elle
la
ne fait
France
pas
Inter.
Que danser, elle danse. Chante aussi.
Oui, oui. On va parler des files d'attente dans les grandes villes, parce qu'aujourd'hui, une file d'attente, c'est soit pour l'aide alimentaire, soit pour le dernier éclair au chocolat devenu viral sur les réseaux.
Allons bon. Et Daphné Burki, bonjour.
Et bonjour, bonjour. À 9h50, on reçoit un réalisateur, scénariste et acteur de ses propres films. Il s'appelle Martin Jova. On va parler de Shell et de Baise-en-Ville. Portez-vous un Baise-en-Ville, c'est pas une injonction. Portez-vous le Baise-en-Ville.
Très bien, à tout à l'heure. Il est 9h30 sur France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
Ophélie ?
Oui ?
Tu descends manger ?
Ouais.
Les garçons ?
Ouais.
Pendant 3 heures, hein ? Je dis à papa qu'il déconnecte ?
Couper Internet, la menace ne va pas suffire.
Suite de notre journée écran sur France Inter, le gouvernement veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais n'auront-ils pas mille et un moyens de contourner cette interdiction ? Cette mesure est-elle applicable ? Oui ou non ?
France Inter crève l'écran. Sonia De Villers.
Et pour en débattre ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Clara Chapaz. Bonjour.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour,
bonjour,
vous êtes
à tous les auditeurs.
Notre ancienne ministre du numérique, vous êtes ambassadrice pour le numérique et l'intelligence artificielle et vous êtes là au téléphone en direct depuis le forum de Davos en Suisse. Face à vous, Clara Chapaz, Bastien Le Quérec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste et membre de la Quadrature du Net. Alors la Quadrature, c'est une association qui se consacre à la défense des droits et des libertés sur Internet. Vous êtes très critique de l'applicabilité de ces mesures et vous alertez notamment sur les risques de censure et de fichage qui risque d'en découler. Un mot avec vous, Clara Chapaz. Concrètement, demain, comment ça va se passer pour s'assurer que les mineurs de moins de 15 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux ? On prendra le temps qu'il faut, Madame la Ministre, tout à l'heure pour expliquer le bien fondé de cette mesure, selon vous. Mais je voudrais qu'on commence par comment vous allez vous y prendre ? Quels sont les moyens pour que les moins de 15 ans n'y aient plus accès ?
Oui, déjà, je voudrais féliciter France Inter et Service Public de dédier cette journée parce que c'est un sujet de santé publique majeur pour nos jeunes. Et comme vous l'avez dit depuis ce matin, on avance avec l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et je veux saluer tout le travail. Vous avez eu Servane Mouton, ouais. Aline Benyamina qui avait fait la commission écran avec elle, Bruno Patineau, tous les chercheurs, les associations, les parlementaires, Laure Miller, Catherine Morin-Desailly qui se sont engagés dans ce combat ici à Davos, dans les couloirs. On nous félicite, la France, que le président Emmanuel Macron ait eu le courage politique de porter ce combat.
On y reviendra parce qu'en effet, c'est un sujet aujourd'hui mondial. C'est une question mondiale.
Et des jeunes sur les réseaux. Et voilà, on est tous d'accord, ce n'est plus possible. On prend les devants et on va avancer, ne rien lâcher pour aller avec cette interdiction.
Donc, concrètement, quels sont les moyens ?
Bien sûr que c'est possible. Je veux dire, on n'en est plus là sur le débat des solutions techniques. À mettre en place. On a rallié un certain nombre de pays. L'Australie l'a déjà fait, le Danemark, l'Espagne, la Grèce. On porte cette conviction-là. Et vous savez quoi ? Ça a déjà été fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Depuis maintenant le début de l'année dernière, donc un an, sur les sites pour adultes, on a
pris les sites pornographiques.
Une décision avec une loi très importante de dire les sites pour adultes qui ne sont pas des contenus accessibles aux enfants de moins de 18 ans ne peuvent plus être accessibles simplement en cliquant sur un bouton qui dit « j'ai plus de 18 ans », mais bien en vérifiant l'âge des utilisateurs. Et il y a pléthore de solutions, que ce soit la reconnaissance des traits du visage, la vérification de pièces d'identité, même des solutions techniques qui utilisent le mouvement de la main, et bien sûr en double anonymat, parce que je pense que c'est le sujet dont on va parler avec Bastien.
Clara Chapaz.
Vérifie l'âge sans donner accès aux informations personnelles.
La vérification de documents d'identité par un tiers de confiance qui servirait d'intermédiaire ou des méthodes de reconnaissance faciale. D'abord, très simplement, est-ce que ces méthodes fonctionnent ou est-ce qu'elles sont contournables par n'importe quel ado de 13, 14, 14 ans et demi?
Alors, effectivement, parmi les solutions techniques qui sont à disposition d'un gouvernement qui voudrait imposer cette vérification d'âge, on a soit l'estimation d'âge, donc ça va se faire par une analyse du visage la plupart du temps, ce qui s'appelle parfois aussi une reconnaissance du vivant, donc on demande à l'internaute de se prendre en vidéo, et la machine va analyser avec de l'intelligence artificielle la plupart du temps si l'internaute est dans la tranche d'âge qu'on demande. C'est absolument pas fiable. Et c'est bien pour cela que des buralistes qui l'utilisaient se sont fait retoquer par la CNIL, qui a rappelé qu'on ne peut absolument pas avoir une estimation fiable, parce qu'entre un internaute qui aurait 14 ans et 6 mois et un internaute qui aurait tout juste 15 ans, en réalité, on ne peut pas, d'un point de vue physiologique, faire de distinction. Également, on voit que ça ne marche pas, parce qu'au Royaume-Uni, où il y a une mesure similaire, on a vu à l'été dernier, quand la loi britannique est entrée en application, on a vu des échecs monumentaux se passer, où des personnes se prenaient en vidéo et étaient remplacées par des avatars de jeux vidéo, et on avait donc un avatar en 3D qui était validé par la machine.
Ouais.
Donc c'est ce genre d'échec vers lequel on va. Et la deuxième solution, c'est celle de faire de la vérification d'identité avec une pièce d'identité ou une identité civile. Et à ce moment-là, on entre dans une phase supplémentaire de surveillance, parce que en plus
alors la surveillance, on va y revenir, parce que c'est évidemment un point central. Clara Chapaz, quand même, sur le fait que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, manifestement, ça n'est pas fiable. Vous répondez quoi?
Oui, je réponds que il y a plein de solutions techniques qui marchent. Encore une fois, je suis à Davos aujourd'hui. On a les meilleurs ingénieurs d'intelligence artificielle de toute la planète réunis ici. Qu'on n'aille pas me faire croire que des ingénieurs, notamment les milliers d'ingénieurs qui sont embauchés par ces très grosses entreprises qui font des centaines de milliards d'euros, que sont les entreprises derrière les réseaux sociaux, ne sont pas capables d'utiliser l'intelligence artificielle ou d'autres technologies pour vérifier l'âge des utilisateurs.
Oui, enfin, en attendant, si
et
ça marche pas, ça marche.
Sur l'expérience qu'on a menée sur les sites pornographiques,
oui,
près de 50% de trafic en moins de jeunes sur les contenus pour adultes. 50% en seulement 6 mois, dans les 6 derniers mois. Donc, bien sûr, comme toute règle, il y a du contournement, il y a de l'imprécision, la technologie avance. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Bastien Le Querec? Qu'on se dise, dans ce cas-là, on ne fait rien et on laisse nos jeunes des 8 ans, parce que c'est 8 ans, l'âge moyen, 8 ans de création de compte sur un réseau social, quand bien même, d'ailleurs, il est déjà interdit de se créer un compte sur un réseau avant 13 ans, dans les conditions
d'utilisation. Bastien Le Querec, vous
alors,
répond.
Comment est-ce que vous,
Madame la Ministre,
accepter ça, alors que les solutions techniques aujourd'hui sont là?
Alors, moi, je vous pose la question à l'un et à l'autre de ce qu'on appelle les VPN. Bastien Le Querec, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est qu'un VPN?
Oui, un VPN, ça consiste à confier sa connexion Internet à un tiers pour masquer son adresse IP, donc l'adresse qui permet de rattacher à un pays ou à une ville.
Comme ça,
donc,
on peut faire semblant qu'on est à Dubaï et pas à Brest.
Exactement.
On peut faire semblant qu'on est à Minneapolis et pas à La Rochelle.
Exactement.
Et comme ça, on contourne les lois du pays.
Et ça permet de contourner. Et c'est utilisé aujourd'hui en Australie, c'est utilisé au Royaume-Uni, c'est utilisé dans les pays, c'est utilisé en France aussi, c'est utilisé dans les pays qui mettent en place ce genre de vérification d'âge. Et je vous pose
la question du VPN, simplement parce que, par exemple, l'opérateur Free, qui est un opérateur français, propose aujourd'hui des forfaits avec VPN intégrés, et qu'on voit bien que les gamins s'en servent par exemple pour pirater du foot
Alors, les VPN en France resteront soumis à la loi française. Donc, si on avait une interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, ça les VPN en France aussi. Seraient toutefois interdits. Sauf que ce qui va se passer, c'est que les personnes qui veulent contourner, et notamment les mineurs, vont utiliser des VPN qui sont à l'étranger, qui sont en dehors de la juridiction française, qui, très souvent, les VPN gratuits sont en fait des mouchards qui vont analyser très finement la communication des personnes. Et c'est des études de 2025 qui l'ont montré, que la plupart des VPN gratuits sont en fait une horreur d'un point de vue vie privée, et on est en train d'envoyer nos enfants là-dedans. Et je peux pas entendre Madame Chappaz dire qu'est-ce que vous faites, comment on fait, sous-entendu, il y aurait uniquement cette solution. Non, il n'y a pas seulement cette solution, on ne peut pas avoir une législation qui se repose sur les promesses d'une industrie qui nous dit depuis effectivement des années qu'elle serait capable de faire de la vérification d'âge. En pratique, on voit que ça ne marche pas, et les effets de bord, pourtant, ils sont réels.
Clara Chappaz, c'est quand même très très concret ce que vous oppose Bastien Lequérec.
Oui, et donc ce qui est très très concret, c'est que sur les sites de contenu pour adultes, les sites pornographiques, aujourd'hui, les données montrent que ça marche. Et bien sûr, la question des VPN et du contournement, je veux dire, ce n'est pas surprenant. On a tous été des enfants. Il se trouve qu'il y a des règles en France, dans beaucoup de pays, sur l'âge minimum, par exemple, de consommation d'alcool. Oui. Est-ce que ça garantit que vous, Sonia De Villeur, que vous, Bastien Lequérec, que tous les auditeurs qui nous écoutent n'ont jamais bu une bière avant l'âge minimum, avant 18 ans? Probablement pas. On le sait qu'il y a des gens. Mais pour autant, ça crée une règle et qui est la même pour tous, qui est la même d'ailleurs pour toutes les familles. Et ça, c'est un point très important. Mm-hmm. Et c'est exactement ce que vous avez dit, Bastien. Ça nous permet de remettre la responsabilité sur une industrie, qui est celle des réseaux sociaux, qui ne sont plus, comme le disait très justement Servane Mouton et Bruno Pettenot, des réseaux sociaux, mais bien des entreprises de captation de la donnée, de monétisation de cette donnée, et de dire quelque chose de très simple, si on prend un pas de recul, on ne veut plus que nos enfants, dès 8 ans, soient dans des boucles qui les entraînent dans des phénomènes où ça trouble leur attention, ça ralentit leur développement, ça les fatigue, ça les abrutit, ça les excite, ça les expose à des contenus violents, choquants, voire pire, des tutoriels pour apprendre à se suicider, à se scarifier quand ils tombent dans des boucles d'enfermement.
Ça, je pense que Bastien Lequérec ne le remet pas du tout en question. Hein. Je pense que le constat sur la gravité des contenus auxquels sont exposés nos enfants, il fait l'unanimité, et sur les dangers des addictions fait l'unanimité. La question maintenant, c'est comment on applique ce projet d'interdiction. Bastien Lequérec, vous alertez aussi sur le risque de fichage. Pourquoi vous parlez de fichage ?
Exactement, parce que dans le panel de possibilités techniques qu'on a, comme on voit que l'estimation d'âge ne fonctionne pas, il reste la vérification d'identité. Ça peut se passer par un scan de sa pièce d'identité, donc l'internaute prend en photo sa pièce d'identité, sauf qu'on voit aussi que ça marche assez peu, parce que les fausses pièces, les pièces qui sont mises en double peuvent être finalement peuvent passer sous les radars de la machine. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là ? C'est l'identité civile, c'est-à-dire une identité numérique qui est adossée à l'identité civile de chacun et de chacune, et ça signifie mettre en place une infrastructure connectée à l'identité civile de l'État, pour que chaque internaute puisse en cliquant sur un bouton, par exemple France Connect, on pourrait utiliser cette architecture technique, où l'internaute est obligé à ce moment-là de montrer patte blanche et d'abandonner son anonymat.
Donc on donne notre numéro de passeport et on donne notre numéro de sécurité sociale, je dis ça, ou notre numéro de compte d'imposition à Meta.
Pas directement. Techniquement, il est possible, en théorie en tout cas, même si en pratique on voit que c'est très souvent mal fait, mais en théorie en tout cas, il est possible de ne pas donner d'informations aux plateformes. C'est ce qui s'appelle la technique du double anonymat. Même si on avait une technologie qui était parfaite, qui était parfaitement appliquée, en réalité, elle reposerait malgré tout sur une infrastructure de fichage, sur une infrastructure où on devrait donner son identité à un tiers qui ne sera pas le site sur lequel on veut se connecter, mais on devra quand même donner son identité. Ça pose des problèmes éthiques, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus être anonyme en ligne. Ça pose aussi des problèmes juridiques, parce que ça soit la Cour européenne des droits de l'homme, que ça soit la Cour de justice de l'Union européenne, ces deux cours ont rappelé que sur Internet, il y a un principe d'anonymat et non de pseudonymat, comme on l'entend souvent.
Et pour vous, Clara Chappaz, c'est fini l'ère de l'anonymat sur le web. C'est une ère révolue. Il faut être aujourd'hui en face des responsabilités quand on est un utilisateur du web.
Non, au contraire, le référentiel qui est utilisé sur les sites pornographiques, et donc toutes les solutions techniques qui existent. Et Bastien Lecarec, je serais ravie de vous inviter à les rencontrer, puisqu'on en rencontre dans le monde entier. Elle se base sur ce principe que Bastien Lecarec a expliqué de double anonymat. Sans rentrer dans une explication trop technique, en fait, l'entreprise au milieu qui vérifie l'âge, ou le service d'ailleurs européen, on est pilote, la France, en Europe, pour développer un système européen de vérification d'âge sur Internet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit un signal de l'utilisateur, l'enfant ou pas l'enfant, est-ce que j'ai plus ou moins de 15 ans ? Et il ne transmet que ce signal, et bien que ce signal, à la plateforme. C'est un peu comme, demain, vous allez chez un buraliste pour acheter des cigarettes. Si vous êtes un mineur, le buraliste va vous demander votre pièce d'identité.
Donc,
et il va
très concrètement,
si,
oui, on reste anonyme sur le web.
Qui a essayé aujourd'hui d'acheter des cigarettes ? C'est exactement la même chose. C'est le même principe. C'est le principe de double anonymat qui protège les utilisateurs. Et moi, j'ai toute confiance dans la CNIL, dans l'ARCOM, avec qui on travaille sur cette question-là, pour que les solutions proposées puissent répondre.
Merci, à cette Clara Chapaz. Donc, merci. On vous entend. Hein. Vous avez confiance et dans les solutions techniques qui existent déjà ou qui seront ensuite proposées aujourd'hui aux grands opérateurs ou aux autorités publiques. Et on vous a très bien entendu, la Quadrature du Net, Bastien Lecarec. Vous n'avez absolument pas confiance ni dans la faisabilité de ces applications et de ces solutions techniques, ni dans ce qu'elles engendrent. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette discussion qui va se poursuivre. Le choix de la grande matinale aujourd'hui, c'est une chanteuse londonienne qui s'impose parmi les voix de la soul, Olivia Dean. Elle chante l'art d'aimer.
Funny in the review, you're closer than you are, in truth we're worlds apart. I'm used to being near you, when I'm down to 10%, and you'd plug me straight back in. Now there's no one to text when the plane lands, or to call when it's taking off, right? Taking bubba, but baby still.
Baby Steps, c'est Olivia Dean. Elle sera en concert le 17 juin à l'Accor Arena de Paris. C'est du lourd, c'est magnifique. C'est la fin, non, c'est le dernier quart d'heure du MAC de la grande matinale. Il est 9h46. La suite avec Charline et avec Daphné Burki. La nouvelle tête vient de s'installer au micro. Charline Vananecker, donc, votre intérêt s'est porté sur un article du journal Le Monde, sur les files d'attente qui sont devenues désirables, sur l'effet viral des réseaux.
Oui. Prenons un éclair au chocolat, Sonia. Si c'est Léna Situation qu'il mange, il devient viral sur les réseaux et du jour au lendemain, ça crée une immense file d'attente devant le pâtissier qui a fabriqué cet éclair au chocolat. Bref. Vous passez devant la file d'attente. Et vous vous dites, cette pâtisserie doit être canon. L'idée, c'est que plus les gens attendent, plus le résultat doit être excellent. Là, je peux vous dire que le budget 2026 de Le Cornu, il va être succulent. Mais c'est pas mon sujet. Les files d'attente sont dopées par les réseaux sociaux parce que la technologie nous permet d'avoir accès à tout ce qu'on veut instantanément afin de pouvoir faire 2 heures de queue dans l'espoir de manger un éclair au chocolat. Moi, ça m'intrigue ces personnes qui sont prêtes à poireauter 2 heures pour bouffer une pâtisserie alors qu'ils râlent sur le livreur Deliveroo qui a 5 minutes de retard. Tout ça donne l'impression que la file d'attente est presque plus importante que le produit. Et pour en avoir le cœur net, il suffit d'interroger les gens. Vous attendez depuis combien de temps, monsieur? Depuis 1h45. Ah, et vous voulez acheter quoi? Ah, zut, j'ai oublié ça. Tu dois avoir l'impression d'avoir passé ta journée à Disneyland, à part que là, l'attraction, c'est une part de flan. Devant certaines boutiques, il y a même un employé chargé de réguler le flux des clients à la façon d'un videur de boîte de nuit. Et là, pour peu qu'il fasse ça en chantant, Daphné, ne me remerciez pas, je viens de trouver votre prochaine nouvelle tête. Finalement, dans la restauration aujourd'hui, si t'embauches un serveur à mi-temps pour gérer une salle de 2 couverts, tu prends 5 community managers à temps complet pour gérer les réseaux, tu peux faire une marge de 20 balles sur un 9 maillots, hein. Ça vaut le coup. Alors les sociologues s'intéressent au phénomène, et apparemment attendre longtemps dans une file, ça procure le sentiment d'appartenir à un club exclusif. Ça, je dirais empiriquement, ça m'est pas sauté aux yeux à la cantine de Radio France. Et je suis navrée de vous le dire parce que ça va vraiment pas nous aider, désolé, mais les jours où il y a couscous... Et c'est même pas viral. Hein, c'est... Alors l'article nous apprend aussi qu'il arrive de se faire des amis dans les files d'attente. Oui, mais après les avoir tous perdus, au motif qu'on va quand même pas se taper 1 heure de queue pour aller bouffer un 9 maillots. Le dernier lieu du vivre ensemble, Sonia, c'est la queue. Et oui, un vivre ensemble tout seul, chacun à son tour en file indienne, sous l'œil d'un vigile. Le type qui a créé l'appli pour que quelqu'un fasse la file à votre place, il a rien pigé, je pense qu'il a raté le tournant du numérique. La file d'attente devient tellement désirable que bientôt il y a des gens qui vont vouloir faire que la queue en fait. Monsieur, c'est à votre tour, vous pouvez rentrer hein. Non merci, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes 3 stories, mon TikTok. Voilà, je me moque, mais enfin si demain c'est la 3e guerre mondiale et qu'il faut faire la file devant les magasins pour se procurer de la nourriture, certains seront plus préparés que moi. Hein. Oh là là, cette interminable file pour une baguette pas trop cuite, ça me rappelle quand on était en paix.
Tellement juste.
Charlie.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Eh oui, il est 9h50, nous sommes toujours en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Martin Jova. Il est réalisateur, scénariste et acteur. Il s'est fait grandement remarquer avec son premier film, Grand Paris, qui avait créé la surprise au Festival de Cannes. Et il a refait la même chose cette année dans le même festival, mais cette fois-ci avec Baise-en-Ville, qui sort mercredi 28 janvier. Ce matin, c'est une dédicace à tous ceux qui galèrent à devenir adultes, ceux qui n'ont toujours pas le permis, ceux qui sprintent pour attraper le dernier RER, ceux qui, après un chagrin d'amour, retournent chez leurs parents, ceux qui continuent quand même à saluer leurs potes avec des chèques interminables, à tous ceux qui sont amoureux de leur petite ville de banlieue, à tous ceux qui sont dans cet entre-deux étrange. On n'est pas un ado, mais on n'est pas encore un adulte, mais déjà une personne qui essaye, qui cherche et qui avance. C'est tout ça, Martin Jova. Bienvenue sur France Inter.
Oh bah merci, c'était magnifique ça. Merci.
Comment ça va?
Bah super.
Bah non, moi je suis très contente de vous présenter ce matin aux auditeurs de France Inter. Ce film s'appelle Baise-en-Ville. Je disais à Sonia, c'est un bonbon de drôlerie. Est-ce que vous êtes venu ce matin avec votre Baise-en-Ville?
Eh ben non, parce que je l'ai perdu. Je perds tout.
En ce moment,
ouais.
Mais parce que vous n'arrêtez pas, vous êtes dans vos avant-premières, vous courez partout, mais je raconte ce que c'est encore une fois qu'un Baise-en-Ville, il y a des générations qui ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas une injonction, Baise-en-Ville. À l'origine, c'est donc une petite sacoche, apparemment pour les hommes, prévue pour transporter l'essentiel quand on passe une nuit ailleurs. Il y a le sous-vêtement propre, la brosse à dents, un préservatif.
Ça peut, ouais.
C'est à peu près
tout
ça,
ouais.
Baise-en-Ville. Mais dans votre cas, c'est le point de départ, ou peut-être une sorte de constat par rapport à votre film, ce Baise-en-Ville.
C'est vrai qu'en grandissant, j'ai ressenti pas mal cette injonction à faire des rencontres amoureuses, à consommer sexuellement, surtout pour devenir un homme, quoi. Et cette injonction à la virilité, j'en ai un peu souffert. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Pourquoi est-ce que je me fais chier avec ça? Et c'est vrai que le titre peut sembler assez provocateur, Baise-en-Ville, mais c'est un film finalement assez fleur bleue,
oui.
Et qui questionne ce rapport-là à la consommation sexuelle.
Oui, c'est vrai. On dirait que ce Baise-en-Ville, ça y participe à l'éducation sentimentale.
Ouais.
En tout cas, ce film, vous avez besoin d'un job. Le constat, il est simple. Ouais. Il vous faut le permis pour travailler. Mais pour payer le permis, il vous faut un job. Donc, vous voilà à sortir avec votre Baise-en-Ville, prêt à découcher parce qu'on n'a pas toujours le dernier RER. Bande annonce.
J'ai trouvé un taf cette nuit.
Bravo.
C'est super, le travail, c'est super.
Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit baiser en ville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris.
Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça ?
Ouais, je crois que je préfère pas savoir.
Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né.
Taf là, baise là.
Alors, votre père dans le film, vous avez peut-être reconnu sa voix, c'est Michel Hazanavicius.
Oui, ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, on est devenus potes.
Ça, c'est
incroyable. Ouais, et quand j'étais en train d'écrire le film, j'ai pensé assez vite à lui, parce que c'est un gars classe, beau gosse, costaud. Moi, à côté, je ressemble à une endive. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment deux types de masculinité qui n'ont rien à voir, et ça me permet de montrer un peu cet écart-là générationnel.
Mercredi prochain, il sort ce deuxième long-métrage. Votre premier film s'appelait Grand Paris, et c'est vrai qu'il avait créé la surprise au Festival de Cannes. Donc, vous jouez dans celui-ci, évidemment, aussi, vous le réalisez, alors que je le dis aux auditeurs parce que vous êtes hyper inspirant, c'est pour ça que vous êtes ma nouvelle tête. Vous n'êtes pas diplômé en école de comédie, vous n'êtes pas diplômé en école de cinéma. J'adore la tête que vous faites en ce moment-là.
J'ai tout raté.
Au contraire, vous n'avez pas tout raté.
Ouais, ouais.
Vous avez fait pourtant le parcours pour décrocher la Fémis, vous avez fait le parcours pour décrocher la Fémis aussi à l'oral, après 6 mois de sélection, Sonia. Ouais. Il a fait un test de personnalité, on lui a donné 11 sur 20.
Ah ouais.
C'est beaucoup pour une endive.
Alors que votre personnalité, c'est justement ce qui fait tout le film. Est-ce que finalement, c'est pas...
Mais le pire, c'est d'avoir eu 11
mais
sur 20.
Mais oui, c'est nul. J'aurais préféré avoir 3, quoi.
C'est
genre,
quoi
trop
une
rebelle.
Personnalité à 11 sur 20.
Ça veut rien dire. Alors que ce film, pour moi, c'est une réhabilitation justement de tous ceux qui rentrent pas dans le système et pas dans la performance.
Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ce truc de winner-loser, je trouve ça tellement nul. Moi, j'essaye de montrer qu'on peut être heureux même si on coche pas toutes les cases de la vie réussie, quoi.
Je suis bien d'accord, le casting il est parfait avec Michel Hazanavicius, mais il y a aussi William Legbill, Emmanuel Berco, incroyable, ouais. Anaïde Rosam. Vous êtes facile à vous autodiriger ?
Ah ouais, j'adore moi. J'aime bien bosser avec moi-même. Non mais je sais bien ce que je veux, je le fais, je donne le ton aussi pour mes partenaires de jeu, c'est fluide, et puis surtout je prends du plaisir, parce que c'est vrai, j'osais pas, quand j'étais plus jeune, me dire que je pouvais être comédien, je me disais non, j'ai aucun talent, puis un jour j'ai essayé, ça m'a plu, et maintenant vu que ça m'amuse énormément, bah je m'auto-emploie quoi. Parce que si je jouais pas dans mes films, je jouerais dans aucun film, quoi.
Mais c'est sûr, vous êtes. Moi, je crois pas, parce que vous jouez quand même dans quelques films. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a deux héros. Il y a vous et il y a une héroïne, la véritable star de ce film. C'est la petite ville de Chelles, une banlieue de Paris. C'est une ville où vous avez grandi, ce qui fait que vous êtes un Chellois.
Ouais.
Et vous filmez Chelles comme Spielberg filme les extraterrestres, avec du merveilleux. Il y a du suspense, il y a une tendresse incroyable, il y a du rose partout.
Mais ouais, mais je pense tout le temps à Spielberg, c'est drôle que vous disiez ça.
Bah voilà.
Mais c'est vrai qu'en grandissant, les films qui me rappelaient le plus ma banlieue natale, bah c'était les films américains, c'était les films de Spielberg.
Avec ou le petit pavillon.
Ouais,
mais
le Truman Show, les Tim Burton.
Eh oui.
Beaucoup plus que le film de banlieue classique avec les flingues et machin. Je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire des histoires, je me suis dit, mais j'ai envie de montrer aussi cette banlieue-là, pavillonnaire, résidentielle, où il se passe pas grand-chose, mais justement qui laisse un espace dingue pour l'imaginaire, quoi.
Ah ouais, et tout d'un coup, Chelles, il y a du Hollywood dans Chelles.
Ouais,
alors,
ça.
Je vous ai demandé qui vous vouliez épater avec ce film. Vous m'avez répondu Valérie Pécresse. Alors moi, forcément, bah, je vous ai proposé une carte blanche. Et je crois bien que votre carte blanche...
Pour Valérie Pécresse.
Pour Valérie Pécresse, dédicace, surtout à tous les Chellois, toutes les Chelloises. Et bah, je crois que c'est sur Le Grand Paris. Musique, on vous écoute, Martin.
Le Grand Paris, ainsi, est plein de points de repère mystérieux et de stèles difficilement lisibles. On a l'impression souvent de marcher dans les allées d'un grand parc à l'anglaise, rempli de folies et de fabriques romantiques, mais qui serait pourtant presque tout involontaire, ou bien sorti du monde bizarrement enchanté du monde industriel. Échangeurs, gares ou antennes, ce qui a été longtemps considéré comme de pures constructions utilitaires, s'est mis à ressembler à des signes venus d'un autre monde ou à des énigmes archéologiques. Le XXe siècle, et toute la modernité avec lui, n'est peut-être plus qu'une collection de ruines. Le Grand Paris pourrait être le nom de cette antiquité nouvelle. Le film prend cette question au sérieux, avec ses héros picaresques, qui vont arpenter non pas les limites de Paris, mais directement questionner son existence, en traversant la ville, selon les lignes de force implacables de ce qui ressemble à un récit de rêve. Un rêve plus beau de l'air rien qu'il n'y paraît, car cette collection des scènes et de paysages joue moins dans le registre attendu d'une opposition entre Paris et sa banlieue qu'il n'approfondit le mystère qui unit la ville à son paysage, et qui unit les hommes à leur destin quand les villes sont devenues leur unique paysage et que la nature autrefois autour d'elles forme l'aberration optique d'un parc circulaire, un parc dont on ne pourrait plus sortir sinon à se réveiller soudain.
Merci Martin, c'est un texte d'Anthony Bélanger.
D'Aurélien Bélanger, absolument.
Bélanger.
Ouais.
Merci beaucoup. Sur cette belle petite ville de Chelles dont on parlait, ce film, il porte sur des banlieues qui ont peut-être été mal regardées et stigmatisées, sur des métiers aussi qui ont été mal regardés et stigmatisés, comme agent d'entretien ou encore moniteur d'auto-école. Votre film, en fait, c'est une comédie romantique sur l'amitié. Alors moi, je crois que l'amour ne sauve pas, mais l'amitié, oui.
Ah ben je crois aussi. Oui, c'est vrai que si la seule façon d'être éponyme dans ce monde, c'était d'être en couple, malheureusement, on serait nombreux à être malheureux, quoi. Ouais. Mais tous les films, ils se terminent comme ça, à la fin, à chaque fois, ils sont ensemble, voilà, et maintenant, ils ont plein d'enfants. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai ?
Bah oui ! Ah non, c'est les amis qui comptent. Une dédicace sur ce son qui vous sauve, qui est le son de votre enfance, évidemment, les Blues Brothers. Une dédicace ce matin, en une phrase ?
À tous les Chélois, toutes les Chéloises, tous les banlieusards de France.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Martin Jouva, et le film s'appelle Baise en ville et il sort mercredi prochain.
Voilà, le seul et unique invité sur France Inter qui s'est auto-qualifié d'endive. On ne vous oubliera jamais.